Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.net.
I bet $50,000 for Poison Ivy.
$100,000.
And I'm in $500,000.
$1 million.
$2 million.
You don't have it. $3 million.
I'll borrow it from you. $4 million.
$5 million.
That's a utility belt, not a money belt. $6 million.
$7 million. Never leave the cave without it.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbineau et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonf. David, comment vas-tu ce matin?
Ça va très bien, Sébastien. Écoute, ça me fait rire parce que tu as mis en background, juste en arrière de toi, ton coffret DVD de Batman. L'original, par contre, pas celui de la semaine.
Non. Mais,
Ah, ça inclut celui de la semaine? Ah, OK, c'est un coffret vraiment avec les quatre, là. Tu as vraiment payé pour ça?
Non, je sais ça en cadeau. Puis, comment s'est passée ta semaine depuis notre dernier épisode?
Écoute, j'ai écouté beaucoup de films. Ah, j'ai écouté un super bon film de Batman. J'ai écouté aussi un mauvais film de Batman.
Ouais, tantôt, on va essayer de deviner c'est lequel, OK?
OK, je dis ça comme ça, là. Il y en a un, c'est Batman and Robin. L'autre, c'est Batman Bad Blood, qui est un dessin animé qui est apparu sur Netflix cette semaine. Je te laisse deviner lequel et lequel. Sinon, écoute, j'ai un club d'écoute de films. Oui, j'écoute beaucoup de films dans la vie. J'ai un club d'écoute de films avec ma mère. Puis notre concept avec ma mère, c'est qu'on n'écoute pas de films qui dépassent les années 70.
Oh.
C'est juste des films avant les années 70. Donc, des films muets, des films en noir et blanc, début de la couleur, tout ça, des Hitchcock. Et puis, bref, cette semaine, on a écouté Top Hat. Qui met en vedette Fred Astaire et Ginger Rogers. Fred Astaire, man!
Ça danse, hein?
Et tabarouette! Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un certain passé de danseur. Nancy et moi, on a suivi des cours de danse pendant quand même beaucoup, beaucoup d'années. En fait, on a arrêté parce qu'il n'y avait plus de cours assez difficiles pour nous autres, là. Ben, il y avait des cours, mais c'était le samedi soir. Mais évidemment, le samedi soir, nous autres, on travaille, fait qu'on ne pouvait pas y aller. Puis en tout cas, on était comme victime de notre succès. Bref, Fred Astaire, wow! Hier après-midi, j'étais allé au cinéma avec mon frère. On est allé voir Spider-Man Homecoming.
Ah, je ne l'ai pas vu encore, là. Faut pas que tu parles
de ça. Donc, je passerai mes commentaires sur ce film. Mais ouais, grosse semaine de film. Ah oui, puis j'ai enregistré aussi une vidéo sur un voilier à Trois-Rivières hier matin.
Oh, wow! Moi, je suis tombé dans un... Tu sais, j'avais jamais écouté Sherlock, là.
Oui.
Il me reste un épisode dans la deuxième saison, là. Je suis comme tombé dans Sherlock.
Ah, non, mais écoute, c'est malsain, cette série-là. Ouais, c'est malsain comme t'accroches.
Ah, c'est trop bon. C'est trop bon.
C'est hallucinant.
Il va falloir qu'on fasse un jour un épisode sur un épisode de Sherlock.
Oh oui!
Surtout que c'est aussi long qu'un film, mais mais ouais, non, c'est très bon. Hier soir, j'ai écouté, le dernier que j'ai écouté, c'est Hound of Baskerville. Très bon, très très bon.
Ah, ouais. Mais c'est qu'ils reprennent l'essentiel des romans de Conan Doyle, mais ils l'actualisent au bout, puis ils en font une twist, puis...
Parce que chaque épisode se base sur une nouvelle ou un roman ou peu importe, là, quelque chose que Conan Doyle a écrit sur. Mais j'en ai lu plusieurs. Là. T'sais, j'ai lu The Hounds of Baskerville, puis tu retrouves quasiment pas la.
Non, c'est ça. Ils se sont inspirés vaguement de.
T'sais, Study in Pink aussi, c'est un autre. Ouais. Fait que c'est très très bon. C'est la bonne télé. Là. Si vous savez pas quoi regarder, faites ça. Regardez ça.
Fait que... Mais sinon, le highlight de ma semaine, c'est vraiment des gens qui sont rentrés en contact avec nous de loin, loin, loin. Mais on en parlera plus tard dans les salutations tantôt.
De loin, loin. D'une autre planète. Mais. Puis juste vous dire comme ça, d'entrée de jeu, vous avez un épisode cette semaine qui est live en ce moment sur Facebook puis Twitch. La semaine prochaine, vous n'aurez pas d'épisode en direct, mais vous allez avoir quand même un épisode juste en podcast. Il n'y aurait pas de vidéo, il n'y aura pas de direct, ok? Pleurez pas si vous ne voyez pas notre belle face, là, mais vous allez quand même entendre notre belle voix. Lundi, la semaine prochaine, le 24 juillet, il va y avoir un épisode qui va sortir. C'est juste que moi, je vais être à l'extérieur du Québec.
Tu vas être loin, loin, loin.
Loin, 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 au Nouveau-Brunswick. Donc, n'ayez pas peur si vous ne nous voyez pas la semaine prochaine. Là-dessus, on va commencer tout de suite. Présente-nous le film de la semaine, David.
Cette semaine, nous avons écouté, ou tenté d'écouter, ou enfin... Batman and Robin de 1997, parce qu'on poursuit notre festival sur les 7, après 77, 87, maintenant 97 avec Batman and Robin. L'histoire de ce film-là, donc, c'est essentiellement le combat de Batman contre Mr. Freeze, qui, Mr. Freeze essaie de guérir sa femme, mais pour avoir assez d'argent pour financer ses recherches, essaie de geler la ville de Gotham en entier. Batman essaie de le contrecarrer ses plans. Et il y a une espèce d'histoire secondaire avec Robin, entre Robin et Batman. Robin disant que Batman ne lui fait pas confiance. Oh, belle photo d'ailleurs de Chris O'Donnell en ce moment. Il est prêt pour recevoir une...
ouais.
Bref. oui, c'est ça. Donc, Batman reçoit la critique de Robin comme de quoi il ne lui fait pas confiance. Et pour rajouter à l'histoire, il y a Batgirl, Barbara Pennyworth qui se pointe puis qui devient Batgirl. Et puis, en tout cas, il y a une histoire de Alfred qui est malade. Il y a beaucoup de choses les unes à côté des autres. Ça marche plus ou moins. En fait, c'est ouvrons la discussion.
Barbara Wilson, je sais pas.
Ah, vous n'avez pas Pennyworth? Parce non, que lui, parce c'est, Oscar, c'est Alfred Pennyworth.
Ouais, mais c'est parce que c'est la fille de sa sœur. Fait que c'est le nom de son père, c'est Wilson. Mais écoute, ouais, ouvrons la discussion. Je crois, sincèrement, la première chose que je veux dire, là, ça commence fort, là. C'est
non,
la
mais
première
attends, si tu as un commentaire sur Batman and Robin?
Ouais.
Parce que moi, je veux passer un commentaire at large avant.
Vas-y.
Les pires films font les meilleurs épisodes de Vision X, je trouve.
Ouais, non, je sais. C'est, ouais, peut-être.
En tout cas, voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
Ouais, j'ai hâte de voir. Non, mais... C'est probablement... Tu sais, on a fait un épisode sur...
Flash.
Flash Gordon, ça, c'était quand même divertissant malgré tout. On a fait un épisode sur Battlefield Earth, dans lequel on a dit que c'était probablement un des pires films ever. Et c'est quand même considéré comme un des pires films de l'histoire du cinéma. Sincèrement, là, je crois que c'est meilleur que Batman and Robin. Batman and Robin, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie.
Sur IMDb, Batman and Robin est 3.7, Battlefield Earth 2.4.
Ah non, mais écoute, je trouve que les gens sont pas assez sévères. Je m'excuse, mais ok, on va comme on a fait pour Battlefield Earth, commençons à démolir le film un morceau à la fois, ok? Y a-tu quelqu'un qui a écrit ce film-là, genre c'est des singes quelque part dans une pièce qui ont écrit le scénario, là?
Ben moi, une chose que je trouve très drôle, ok, c'est qu'avec mes recherches de la semaine, d'ailleurs j'ai essayé de trouver une bonne question du geek puis je ne l'ai pas trouvée. En tout cas, bref.
On en donnera une pas bonne.
On aura une pas bonne question du geek. Bref, je suis tombé sur une entrevue avec Joel Schumacher qui disait, tu sais, qui prenait le blâme sur lui. Là. Si c'est pas bon, c'est de ma faute. C'était moi qui le boss de cette affaire-là. Sauf que les producteurs puis les maisons de cinéma puis tout ça, ils m'ont mis beaucoup de pression pour vendre des jouets.
OK, mais...
Ça donne ce sentiment-là, je trouve. Ben, ça excuse pas, là.
Mais... Ça excuse pas le scénario.
Non, mais c'est juste, ça explique en partie pourquoi Mr. Freeze, pourquoi Bane, pourquoi les bat-costumes, huit bat-costumes, pourquoi... Il y a comme trop d'affaires qui sont mises dans ce film-là. Les millions d'histoires secondaires, les... Il y a trop d'affaires, c'est un mishmash d'un paquet de trucs qui se tiennent pas les uns avec les autres.
C'est clair. Écoute, comme tu dis, il y a trop d'affaires, mais simplement, je veux dire, on a déjà vu des films avec beaucoup d'affaires. Exemple, Avengers Age of Ultron, c'est pas le meilleur des deux. Bon. Parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages, puis bon, on ne les montre pas, puis ça c'est un peu gossant pour ça. Mais il y a quand même une histoire, il y a quand même quelque chose. C'est possible de faire un film qui souffre du fait qu'il y ait trop de personnages, comme Batman et Robin, en créant une histoire qui est quand même intéressante. Ce que les gens, mettons, si je termine mon parallèle avec Age of Ultron, ce que les gens ont blâmé, c'est oui, beaucoup de monde, puis ben, tu sais, il manquait le côté optimiste un peu de... du premier Avengers, là, le deuxième, c'était quand même... c'était lourd quand même, tout le temps. T'sais. Là, on a encore un film avec beaucoup trop de personnages, mais qui a même pas d'histoire. Il y a rien. Non seulement, on a cette affaire-là qui gosse, que pouf, pouf, ça pousse de partout. Oh, Bane, oh, Poison Ivy, oh, Mr. Freeze. On nous dit rien. On nous raconte rien. Il y a jamais un moment où tu as un attachement à ce qui se passe. Où tu apportes une importance à ce qui arrive, c'est du vide pendant 2 heures. Là. Pas 1h30. Là. 2 heures.
Ah, c'est vraiment, vraiment long pour rien.
Tu sais, c'est ça. C'est... J'arrive pas. Là, je regardais, tu sais, c'est Akiva Goldsman là, qui a écrit le scénario. Là. Bon, il a écrit Batman Forever. Batman Forever qui. C'est attendu, est quand même meilleur que celle-là. Il y a des problèmes, là. Mais, tu sais, il y avait des bonnes choses quand même. Il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Il a écrit A Beautiful Mind.
Ah, quand même, hein.
Tu sais, je veux dire. Ok. Il a écrit I, Robot.
Quand même.
Il a produit Monsieur et Mrs. Smith. Il a.
Ah, j'adore ce film.
Ah, ouais, c'est vraiment bon. Il a écrit The Da Vinci Code. Il a produit Hancock. Il y jouait dans Hancock aussi. Il a joué dans Star Trek, man.
Lequel? Quoi?
Le premier de...
Motion Picture?
Non, pas le Motion Picture. Le premier de... Voyons, J.J. Abrams.
Ah, ok.
Il a écrit quand même pas mal d'affaires, t'sais, de trucs que tu fais comme... Ouais, c'est pas si pire, là. Oh, il a été producteur pour King Arthur. Il a fait l'histoire du dernier Transformers. Ah, il a écrit et produit Dark Tower, qui va sortir bientôt.
Ah, okay.
Mais tu vois qu'il est capable de faire des bonnes choses.
Il est capable de faire quand même des mauvaises choses aussi. Mais
c'est ça, je fais comme... Mais, comment? Puis moi, la question que je me pose, c'est quand tu es en train d'écrire ton scénario, là, puis tout s'en va de nulle part. Pourquoi tu fais un film avec? Je sais pas. T'es-tu d'accord avec moi?
Oui. Puis, j'en ai parlé dans les dernières semaines un peu. Une chaîne YouTube que j'aime bien, c'est Everything Wrong With. Puis, ils en ont fait un sur Batman and Robin.
Ils ont eu le temps de faire ça en un vidéo.
Pardon?
Ils ont eu le temps de faire ça en un vidéo.
C'était un long, par contre. Écoute, c'est magnifique. Puis, tu sais, ils relèvent des détails, genre. Tu sais, pas à la fin, mais vers la fin du film. À un moment donné, il y a Poison Ivy qui sort d'une immense plante. Mm-hmm. Là, il y a Chris O'Donnell, Robin qui arrive. Puis là, elle l'embrasse, mais finalement, il enlève les trucs sur les lèvres. Tout ça. Puis là, il y a un combat avec Batgirl. Tout ça. Puis à un moment donné, Batgirl pousse Poison Ivy dans la plante. Puis là, la plante bouffe Poison Ivy.
Ouais.
Pourquoi la plante, elle bouffait pas Poison Ivy il y a 3 minutes?
Non, puis elle l'a pas vraiment bouffé parce que finalement, à la fin du film, elle est en prison.
Ça, encore.
Je sais pas. Puis c'est dans cette scène-là qu'il y a une des affaires qui me gosse le plus de tout le film. Là. C'est le rewind. Là.
Ah, c'est mauvais.
Là, j'arrive pas à croire que dans un film qui avait 100 quelques millions de budget, là, on s'entend. Là. Rewind. Ils ont rewindé un bout parce que genre Robin est dans-dessus de l'eau. Là, il réussit à sortir de l'eau, mais là, il y a comme des plantes qui le retirent dans l'eau. Mais au lieu de faire juste... Ils ont rewindé le bout où il sort de l'eau. Puis ça paraît gros comme le bras, parce que l'eau, est... l'eau elle revient. Ouais,
non, les effets de l'eau, ça fait ça marche pas du tout, tu sais. Ah non, c'est horrible. Mais pardon, détruisons... Continuons à détruire le film.
Non, mais...
Sur le budget du film, pour promouvoir ce film-là, pour le rendre vendeur, ils ont programmé des grandes stars d'Hollywood, tu sais. George Clooney, Chris O'Donnell à l'époque, mais surtout Arnold Schwarzenegger. OK? Arnold Schwarzenegger, il a été payé 25 millions pour ce film-là. Il fait 25 minutes d'apparition dans le film.
C'est quasiment... C'est un cinquième du budget, là.
Un million par minute de film. Et il sort 27 puns. Il sort 27 jeux de mots poche sur la glace. Il est donc payé pas loin de 1 million...
La joke poche.
La joke poche.
Ah non, mais écoute, parlons-en de ça. Dans l'écriture, là, il y a Mr.
Les
Freeze.
Les jokes poches de glace.
Mais en fait, tout le monde fait des jokes poches. Tout le temps. Il n'y en a jamais une qui est drôle, là.
Moi, j'écoutais ce film-là, là, puis je me suis dit, il y a vraiment quelqu'un, quelque part, qui a essayé de reprendre la vibe gogo, gaga, ou je sais pas comment dire ça, de Batman, de movie.
Ah, le camp.
Des années
campy,
60.
Non,
il y a quelqu'un qui a essayé de faire un film des années 60 avec des couleurs flash, des couleurs qui brillent, quelque chose qui a de la texture du point de vue visuel, avec des jeux de mots poches, de l'acting trop gros. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui a essayé de revenir au Batman original. Mais ça marche
pas. Ça marche pas. Parce qu'en plus, c'est que tu es parti des deux films de Tim Burton.
Oui, oui, qui sont
très sombres.
Ah, d'ailleurs, excuse-moi, parenthèse. Spider-Man, il y a Michael Keaton.
Ouais,
Michael Keaton faisait le Batman original de Tim Burton. He still got it, man. Il l'a encore en tabarouette. Il est vraiment bon, Michael Keaton.
Ben, il est bon. T'as vu le nouveau Robocop?
Oui!
Le film est correct, mais Michael Keaton est super là-dedans. Hein?
Ah ouais, ah ouais.
Mais,
je l'aime, ce gars-là.
T'sais, t'as eu les deux Tim Burton. Le premier, Joel Schumacher, qui est Batman Forever, qui reste quand même un peu dark, mais là, c'est sûr que Two-Face puis le Riddler sont un peu plus... Mais c'est correct, le Riddler, il est complètement cinglé. Fait que c'est correct. Et puis en fait, quand vous écoutez, si vous écoutez, vous avez jamais vu Batman Forever, ça vaut la peine de le regarder pour la performance de Jim Carrey que je trouve absolument phénoménale en Riddler.
Ah oui, vraiment.
Tommy Lee Jones est à chier dans Two-Face, là. C'est vraiment pas... En tout cas, c'est pas... j'aime pas cette version-là de Two-Face. Mais là, t'arrives à Batman and Robin où Gotham est encore dans le même style que celui de Tim Burton. Gotham vraiment gothique, tu sais. Très sombre, puis comme... Un peu dégueu. Tu sais, ça, parenthèse, c'est ce que je trouve qui manque le plus aux trois films de Nolan. Les films avec Christian Bale, là, de Batman. J'aime pas le Gotham.
Ah, OK, OK. Dans
ça ressemble trop à une ville normale. Tu sais, c'est... Il y a le c'est premier York, où c'est un peu plus weird, mais là, loin... Fait que je suis comme, non, c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, là, dans l'univers de DC, il n'y a pas de différence entre Metropolis et Gotham. Mm-hmm. En ce moment, ça a l'air semblable. Fait que c'est non, Gotham, c'est dégueu. Là. Gotham, c'est lourd. C'est cette espèce d'ambiance-là. T'as peur à Gotham. C'est pour ça que Batman, il peut opérer là-dedans. Parce que il y a plein d'endroits où se cacher. Puis tout est sombre. Puis tout est dégueu comme ville. Là. Mais ils ont gardé ça. Ce côté tonalité visuelle. Là. Mais ils ont mis un autre ton complet à ce qui se dit, qui fit
de blague
pas.
Ils ont essayé de faire léger et lourd en même temps, ça marche pas du tout.
Une dichotomie qui...
Voilà, merci Sébastien. Voilà, on a plugé notre dichotomie.
Mais écoute, non, ça marche pas. Les blagues sont extrêmement mauvaises, sont vraiment chiantes. Ils finissent par... Écoute, après 5 minutes, t'es comme ta gueule, t'sais. C'est assez, là. Ils en ont déjà fait, parce que je pense qu'à chaque fois qu'un personnage parle, il y a un personnage qui est en costume. Parce que quand ils sont habillés normalement, là, ils ne font pas de blagues. Mais dès qu'ils ont leur suit là, de super-héros ou de super-méchant, là...
Ça devient épouvantable.
À chaque fois qu'ils parlent, ils font un jeu de mots.
Mais une affaire que je trouve vraiment drôle dans ce film-là, c'est que là où est-ce qu'ils auraient dû en mettre une joke, ils la font pas.
Comme?
Évidemment, dans les films des années 90, c'était bien... c'était de la mode de l'époque de mettre des caméos. Ah, c'est encore, en fait, la mode de l'époque. De mettre des caméos, mais... Avec des... là, aujourd'hui, c'est des caméos de Stan Lee. Mais à l'époque, c'était des caméos de chanteurs pop.
Ah, fait que tu parles de Coolio, là?
Ouais, je parle de Coolio.
Il dit rien.
Il y a pas de joke là-dessus?
Ouais, il dit quasiment rien.
Coolio, Mr. Freeze, Coolio. Il y a pas de joke là-dessus? Qu'est-ce que c'est ça?
Puis, ouais, mais... Ah non, écoute, c'est vraiment... Ça devient extrêmement désagréable. 2 heures de mauvais jeu de mots, là. T'as l'impression de... Je sais pas, d'être un souper de famille avec un oncle fatigant. Il y a tout le temps un oncle qui fait des jeux de mots poches. Là.
Chez nous, c'est moi.
Moi aussi, là. Mais en fait, on appelle ça des dad jokes, des jokes de papa. T'sais. C'est pas le choix. Quand tu deviens père, tes jokes font automatiquement comme... Ils sont connes, puis il est pas drôle. Là. Fait que, mais c'est ça. Puis après ça, tu continues à regarder ce film. T'sais, bon, continuer à démolir le film, là. C'est tout le côté visuel de ce qui est suit. Oh non, on en parlera plus tard. Moi, ce que je veux surtout parler, c'est... On dirait que tout le monde s'en sacre. Oui. T'as-tu remarqué?
Moi, ce que je trouve vraiment dommage, okay, c'est l'espèce de conflit entre Batman et Robin, du point de vue que l'un fait pas confiance à l'autre, ça, puis là, c'est une histoire de famille, puis... Ça aurait pu être une source de tension profonde entre les personnages, une tension qui aurait... Si le focus avait été mis là-dessus, plutôt que sur Mr. Freeze, ça aurait vraiment pu créer une tension dans l'histoire, un désir d'aboutissement, on aurait pu prendre parti d'un côté comme de l'autre, on aurait pu... Tu sais, il aurait vraiment pu avoir quelque chose. Ils ont gratté la surface, ils n'ont pas creusé. Et puis ça fait en sorte que On s'en fout. Chris O'Donnell, il a juste l'air d'un petit ado qui crie après son papa, tu sais. Il a de l'air de Rosemary, ma fille, quand elle me demande sa suce, puis je veux pas y donner, là, tu sais, parce qu'on est dans le milieu de l'après-midi, puis que la suce, c'est pour le dodo, tu sais. Elle me fait la même réaction, puis je m'en fous autant, tu sais.
Non, mais j'ai une voix dans mes notes aussi, une affaire sur l'écriture, là. J'ai l'impression que ce film-là date des années 70. Ben, quand tu parles des par rapport aux personnages féminins, de la manière qu'ils sont écrits et ce qu'ils disent sur les femmes, j'écoutais le film, je sais pas si ça a été mal à l'aise des fois, la manière que c'est fait,
parce qu'il y a une affaire dont il faut qu'on parle dans 2 secondes, là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, puis ça revient à ce que je disais tantôt, il y a quelqu'un quelque part qui a essayé d'exploiter le Batman, Batman de movie, t'sais, on se retrouve
en 66,
30 ans en arrière, t'sais, 40 ans en arrière, il y a une dichotomie là-dedans, ça marche pas. Mais une affaire dont il faut qu'on parle, c'est les Bat-nipples.
Ah ouais, ben ça, c'est joli dans ma liste, là. Les Bat-nipples, man.
Parce que, ben, évidemment, on pourrait en parler dans les costumes, mais je trouve que ça vaut plus la peine d'en parler dans l'écriture du film parce que c'est un choix esthétique. Passer le costume, là. Quand, au début du film, on voit Batman et Robin qui s'habillent, puis ils se mettent ça, puis on voit les fêtes, tu sais, c'est un film de super-héros, c'est de l'homo-érotisme. Tu sais, bon, moi, j'ai pas de problème avec ça. Jusqu'à ce que Batgirl la mette son suit.
Oui.
C'est là que je trouve ça vraiment
je l'écris dans mes notes. La scène qu'elle met son suit, là, j'étais comme gros plan sur ses seins, gros plan sur son cul.
Là, ça devient dérangeant. J'étais ça me dérange.
Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois même pas la face.
J'ai de la difficulté à. Mais évidemment, je suis full hétérosexuel, là, mais.
Non, mais oui, mais.
Mais je comprends pas. Ça me dérange beaucoup plus de la voir elle que de les voir eux.
Ouais, mais c'est parce
même si on a un gros plan sur le snatch de George Clooney. Là, je...
Le bat-paquet.
Le bat-paquet.
Le bat-bat. Mais Ah non, mais c'est parce que ce qui dérange, c'est aussi c'est l'utilisation des femmes dans tout le film qui sont que purement des... Tu sais, un, le film est quand
Poison
même...
Ivy.
Ouais, mais le film, en gros, est un méchant party de saucisse, là. Je veux dire, tous les personnages principaux puis qui ont des choses moindrement intelligentes à dire, là, ou qui ont de la profondeur, c'est que des hommes, OK?
Ouais.
Toutes les femmes, ce sont des objets dans le film. Fait que c'est sûr que là, ça fait une heure et demie que tu te fais servir... des femmes sur un plateau. Non, mais tu sais, je veux dire qu'ils sont utilisés de même. Là, t'arrives avec la scène avec les gros plans. Tu fais comme, ben voyons donc. Là. Montrez-la, genre, juste se retourner puis être dans son suit de bad girl. Là.
Ouais. Non, c'est ça. Je voudrais pouvoir répéter ça, mais ça me rend juste trop mal à l'aise. Mais je comprends pas pourquoi. Il faudrait que je fasse une thérapie là-dessus, je pense. Pourquoi ça va pas déranger les Batnipples, moi, de Batman et Robin?
Parce que, sais-tu quoi, genre... moi, je pense parce que, je sais pas, on a... Parce qu'on s'en fout.
Mais aussi, une affaire que j'ai trouvée intéressante dans une autre entrevue que j'ai écoutée avec Joel Schumacher... c'est qu'il disait, parce qu'il s'expliquait, il s'expliquait par rapport au Batnipple, puis il disait, le concept du super-héros, c'est un corps parfait. Le concept du costume du super-héros avec le six-pack découpé, c'est de nous ramener aux héros grecs de l'Antiquité. Sur les statues grecques au corps parfait, il y en a des nipples. Fait que pourquoi ne pas en mettre des nipples sur les costumes de Batman et Robin?
Parce que n'importe qui ferait un suit, là, il en mettrait pas de nipples. Puis tu sais ce que ça prouve? Ça prouve une chose, c'est...
Ça me dérange pas.
Non, mais tu vois... Non, moi, ça me dérange vraiment, en fait, les bat nipples. Puis ce que je trouve, la base, le plus gros problème, c'est que tu vois juste le commentaire que t'as dit, là, que Joel Schumacher a dit, ça montre qu'il connaît à rien. Qu'il sait même pas c'est quoi Batman, qu'il sait pas... Parce que... Le concept du super-héros, c'est pas un corps parfait. Oui, dans les bandes dessinées, sont dessinées comme ça. C'est juste une façon esthétique de dessiner. C'est tout, là. Le concept du super-héros et ce qui prime et ce qui est le plus important dans les bandes dessinées, c'est ce qu'il représente. C'est un super-héros, c'est une image, une idéologie. C'est quelque chose. Chaque héros a sa personnalité extrêmement définie. La preuve, physiquement, ils se ressemblent toutes. Le physique a zéro importance dans le super-héros. Qu'est-ce qui fait que une version de Batman est meilleure que l'autre? C'est la personnalité. C'est ce que Batman représente, ce qui passe. Et Joel Schumacher a complètement passé à côté parce que lui, oh, tu sais, il a fait des affaires qui disaient belles. Mais en fait, les suits sont laids. Les chars sont laids. Il n'y a rien d'esthétiquement qui fonctionne dans tout ce qu'il a créé, là. Fait que c'est juste un mauvais réalisateur qui a fait un mauvais film, là, je veux dire. Puis il a payé pour, parce que regarde sa carrière après ça. Là. Je veux dire, le seul qui s'en est sorti... En fait, il y a deux personnes qui s'en sont sorties indemnes quand même de ce film-là. Là. Parce que, ben, Schwarzenegger, il est devenu gouverneur, parce que fait que c'est sûr que sa carrière a arrêté un peu. Mais Uma Thurman puis George Clooney ont quand même réussi à continuer. Les autres, là, sont disparus. Puis... Ouais. George Clooney a dit qu'il y a eu de la misère après, puis ça a failli complètement détruire sa carrière, ce film-là. Mais parlons-en de George Clooney, là.
Écoute, il a tellement l'air d'un petit cul dans ce film-là, je trouve. Là.
Ouais,
tu sais, l'espèce de George Clooney qui est l'homme... Comment je peux dire ça? Le bachelor par excellence, ben... l'homme un peu mature, mais qui connaît les femmes. Oh, on n'a pas cette impression-là. Et pourtant, c'est le typecast de,
ben
Batman,
ouais.
de Bruce Wayne, tu sais.
Ben oui.
Ah! Non, c'est okay. Ça, cette affaire-là?
C'est mauvais. Il a l'air... Tu sais, t'as le goût de... Genre, j'étais là, j'écoutais le film, j'avais le goût de faire comme... Hey, oh! T'en es là. Tu sais, il a l'air de regarder dans le vide tout le temps. T'as-tu remarqué?
Oui.
Une espèce de regard complètement comme...
Puis moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est qu'il y a toujours une espèce de petit sourire niais. Genre, ah! Oui, mon ami.
Ah!
Non, il est pas torturé. Pantoute!
Non, non.
Batman, c'est la torture psychologique ultime.
Batman, là, c'est un psychopathe.
C'est un psychopathe.
Exactement comme le Joker. C'est juste que ils sont dans des côtés opposés. Là. Mais les deux sont fous, là. Les deux sont pas bien. Les deux sont dangereux.
Clairement.
Ça, tu le sens jamais. Je veux dire, Christian Bale, tu sens que Batman, il est un peu genre unhinged, comme on dit en anglais. Ben Affleck, c'est ce que j'ai aimé le plus de son Batman. Non? C'est le Batman qui est plus vieux, là, puis qui est... plus il vieillit, plus il est
pire. Il est aigre.
Ouais. Ah, parce qu'il devient vraiment plus extrême, là, tu sais, de plus en plus. Fait que, non, ça, c'est bon. Ça, c'est quoi? Puis, tu sais, le personnage est mal écrit. Puis George Clooney, il a pas de l'air de vouloir être là. Là. Mais pas en tout.
Ça a vraiment l'air d'une gigue alimentaire en plus. Hein. Mais tout ça pour ça.
Il y a rien, c'est vide. Il y a pas d'émotion, il y a pas de...
Non. Non, ça marche pas. Pas en tout, ça colle pas zéro.
Il y a la mâchoire. Il y a une batte oui. mâchoire. Mais c'est pas mal tout. Chris O'Donnell qui fait Robin...
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Ben, tu sais, j'ai toujours eu un problème avec Robin, point. Mm-hmm. C'est difficile comme personnage. T'as à dealer avec les erreurs du passé quand ils ont rajouté des sidekicks à tous les héros. Batman, c'est un lone wolf, là, un loup solitaire.
Ouais. Mais moi, il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. Le premier, je préfère de loin Damien à Dick Grayson. Damien Wayne à Dick Grayson. Je trouve que c'est un meilleur Robin parce qu'il est hargneux, le Robin de... Voyons, Damien. On se rappelle, pour ceux qui sont moins geeks que nous autres, là, Damien, c'est donc le fils de Bruce Wayne et de Talia Al Ghul. Et puis, ben, en fait, c'est ça, je lis donc de ce temps-là les Injustice. Les bandes dessinées de Injustice. Puis Damien finit par tuer Dick Grayson. Parce qu'il est juste trop hargneux. Fait qu'il fait des moves violents à tout bout de champ. Puis il y en a un, à un moment donné, Dick Grayson, il le voit pas venir. Puis il mange un gros coup en arrière de la tête. Puis ça lui casse la nuque. Puis il meurt. Puis là, fait que là, ça fait en sorte que ça y a une cassure incroyable entre Bruce Wayne puis son fils Damien Wayne. Parce que Bruce Wayne... Il voit Dick Grayson comme son fils, son vrai premier fils. Son fils aîné, c'est Dick Grayson. Il y a un amour entre les deux, le profond. Puis ça fait en sorte que ça casse entre Bruce et Damien. Puis là, finalement, Damien, il prend contre Bruce Wayne. En tout cas, ça devient vraiment malaisant, excusez. En tout cas, bref, j'adore ce Robin-là. Qui est jeune, mais qui est vraiment agressif, puis tu vois qu'il reprend de l'agressivité de Batman, de Bruce Wayne. Il y a vraiment, on parlait de d'aigreur, tout ça. Damien, c'est ça. Bref.
Sa mère et son grand-père.
Ouais, ben, c'est ça.
Mais moi, ça, j'ai jamais aimé Dick Grayson.
La deuxième des choses que je veux dire, c'est dans l'écriture. Ça t'a-tu dérangé autant que moi qu'à chaque fois qu'ils disent une phrase, ils finissent par Dick?
Oui.
Avec, oui. Mais moi, je l'ai entendu avec un D minuscule à chaque fois.
Oui.
What's wrong, Dick?
Ouais. Puis on va peut-être en entendre tantôt. Mais.
J'ai pas été capable de m'enlever ça de l'oreille.
Ça n'a pas de sens.
C'est vraiment wrong. Comment ça, il y a quelqu'un quelque part? C'est une joke? Si tu voulais jouer sur le jeu de mots?
Ben, tu sais, c'est parce qu'il joue dans toutes sortes de zones avec ça. Je veux dire, Poison Ivy, là, quand elle parle, là, les doubles sens, là. Moi, j'étais là, écoute, c'est un film qui est supposé d'être familial, là, mais man, j'étais là. Ok. Il y a des bouts, je savais pas comment. Ben, il y a pas de ça, tu sais. Mais, tu sais, Dick Grayson, j'ai jamais aimé le personnage de Dick Grayson en Robin. Là où je le trouve vraiment mieux, c'est en Nightwing. C'est comme... Robin, il est chiant, là. Puis c'est correct, c'est cool. Parce que Robin, dans le fond, il est fait pour être plus jeune. C'est ça le problème aussi dans le film, c'est que Dick Grayson, Chris O'Donnell, est trop vieux.
Mm-hmm.
Puis ça prend un genre un ado plus pour faire Robin. ce qui est plus...
Ça aurait mieux fonctionné si... puis en plus, ça aurait pu, justement, pour en venir sur la relation Bruce-Dick, si Chris O'Donnell avait joué Nightwing plutôt que Robin.
Exactement. Parce que Nightwing, c'est quoi? C'est Robin qui a décidé d'avoir son indépendance. C'est quand même correct. Là. C'est fini genre d'être le sidekick. Là. Je suis ma propre personne. S'il était devenu Nightwing dans le film...
Ça aurait été malade.
Ouais.
Ça aurait été écœurant.
Parce que là, en plus, tu rajoutes Batgirl qui... En tout cas, on parlera de Batgirl tantôt. Mais... En tout cas, il y aurait eu quelque chose de plus intéressant. Bref. Mais Chris O'Donnell est vraiment mauvais.
Non, non, c'est pas bon.
Vraiment mauvais.
Arnold Schwarzenegger. Arnold.
C'est Arnold.
Mais je trouve que... Comment je pourrais dire ça? C'est celui qui m'a le moins déçu dans le film? On s'attend pas à une grande performance d'acteur de Arnold, là, tu sais. Tu t'en vas voir un film avec Arnold. À quoi tu t'attends? Tu veux voir des muscles? Tu veux l'entendre parler un anglais vraiment épouvantable? Puis tu veux des one-liners?
Ouais, ah, c'est
que,
clair. Hein?
Est-ce que j'ai été déçu sur un de ces trois points-là? Non. Donc, c'est peut-être parce que mes attentes étaient trop basses. Mais... Mais ça m'a pas déplu la performance d'Arnold là-dedans.
C'est correct. C'est l'écriture du personnage qui est vraiment mauvaise. Ce que je trouve le fun, c'est qu'ils ont quand même réussi à donner un peu de profondeur. T'sais, ils ont donné le background. T'sais, Victor Freeze, là, il est...
C'est clairement le personnage le plus troublé de la gang. Hein.
Oui. Ben, c'est un méchant assez typique de Batman où... en fait, ils l'ont rapproché de Batman dans un sens que... Il y a une catastrophe qui est arrivée à ce gars-là, puis à cause de ça, il est devenu comme ça. Il veut pas faire de mal nécessairement, il veut juste sauver sa femme, tu sais. Ça, j'ai trouvé qu'ils l'ont bien fait. Puis d'ailleurs, il y a deux bonnes scènes dans tout le film. Il y en a une que c'est avec Mr. Freeze. C'est quand il est en prison à Arkham.
Oui.
Puis il sculpte dans la glace.
Oui.
Tu sais, ça. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, puis même que Arnold réussissait à passer ça. Tu sentais le gars, c'est son désarroi. Il a tellement mal qu'il en est arrivé là. T'sais.
Oui.
Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment le mieux du film, pour moi.
Oui. Excuse-moi, c'est quoi la deuxième scène?
La deuxième scène, ben, on va en parler quand on va parler de... Ben, tiens, on va parler de Uma Thurman.
OK.
Qui est bonne aussi, malgré le fait que son personnage soit très mal écrit.
Exactement.
Vraiment mal écrit. Mais l'attitude, le truc qu'elle a, puis la deuxième bonne scène du film, c'est quand elle arrive là, à l'espèce de truc où ils font une vente aux enchères.
Oui.
Son entrée dans la place, c'est cool, là. J'ai trouvé que c'était bien fait, c'était bon, tu sais, elle prend le contrôle de tout le monde, là, puis là, les gars qui se mettent à terre, genre, pour pas qu'elle marche à terre. Ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. La musique est horrible. Mais. Mais Uma Thurman, c'est dans sa démarche, dans son truc, dans sa façon de regarder. C'est vraiment bon quand même ce qu'elle fait. Faut juste pas que tu l'écoutes parler. Toi, qu'est-ce que t'as pensé d'Uma Thurman?
Ben. J'ai trouvé que l'accent était trop mis sur la femme fatale et pas assez sur l'activiste.
Ouais.
Parce que c'est une activiste enragée
un peu.
Dans le film. Mais tu sais, je trouve que c'est pas assez une activiste intelligente.
Pour une scientifique...
Pour une scientifique...
pas ben right, hein? Quelqu'un qui est capable de combiner des gènes de plantes et d'animaux pour créer des nouvelles formes de vie, là, je trouve qu'elle est un peu conne.
ça marche plus ou moins. Mais tu sais, l'actrice est vraiment bonne, puis j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais comme tu dis, elle s'en sort quand même bien, malgré l'écriture vraiment horrible.
Ah, ça, c'est pathétique. Comment c'est mauvais ce qu'ils ont donné à faire. Là.
Bref, j'aurais aimé plus. Là, il faut parler du...
Alicia Silverstone, qui fait Barbara.
Actrice slash personnage
de
ce film.
Actrice, est-ce qu'elle acte? Je veux dire, elle est là quand...
C'est-tu juste moi qui en parle, mais sa bouche, là. Maudit que ça m'énerve. On dirait qu'elle est comme paralysée d'un bord de la bouche. Elle parle juste avec l'autre côté. T'sais, elle ressemble à Jean Chrétien qui en parle, en fait.
Ah non, mais. Puis elle est pas bonne. Écoute, George Clooney, là, il y a un million fois plus d'émotions quand il parle qu'elle.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment horrible.
George Clooney, c'est un végétal. Elle, c'est plus minéral, son affaire, là. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là.
Je comprends pas pourquoi on a voulu intégrer ce film-là, ce personnage-là dans ce film-là. Écoute, t'appelles le film Batman and Robin. Pourquoi tu rajoutes Batgirl?
En plus, là, moi, c'est-tu qu'est-ce qui m'a bugué le plus? C'est pourquoi tu crées une nouvelle origine à Batgirl.
Qui est pas la bonne.
Barbara, ça a toujours été la fille de Gordon. Pourquoi oui. Ça peut pas être la fille de Gordon dans ce film-là?
Parce qu'il faut que ça soit la fille d'Alfred. Non! La nièce d'Alfred, mais... pardon.
Ah non, mais c'est une famille. Rapport. C'est une famille. Non, mais sais-tu quoi? Moi, j'aurais amené... Si il avait voulu amener Barbara Gordon, j'aurais sauté une étape. J'aurais passé tout de suite de Batgirl à Oracle. Mm-hmm. Tu sais, à la limite, là, pas besoin... Elle est déjà handicapée, là, puis c'est comme une... Parce que Barbara, c'est une whiz des ordinateurs. Puis ça, ils l'introduisent dans le film, là.
Ouais.
Puis c'est elle qui crée, t'sais, elle devient Oracle, puis c'est elle qui guide Batman, Nightwing, toute la gang, là. C'est elle qui comme, ils ont tout un écouteur, puis elle leur parle, puis elle sait tout, puis elle est comme enfermée dans l'espèce de Clock Tower, là, puis elle fait tout, là. Ça, je l'aurais mis ça, direct, là. Boom! Quelqu'un qui décide d'aider Batman comme ça, puis lui, il est comme, hein, c'est qui ça, tu sais?
La ça... contrôle autour, là, ouais. Il aurait vraiment pu avoir quelque chose. Mais moi, ce que j'ai détesté par rapport à ce personnage-là, c'est dans l'écriture du film. Check bien ça. Si on décortique là, ce qui se passe, Alfred tombe malade. Il ne sait pas que sa nièce va venir la voir, mais ça fait des années qu'il ne l'a pas vue. Personne n'a entendu parler d'elle, mais il a designé un costume entier, puis une moto, puis de tout ce que tu veux.
Tight le suit en plus.
Pardon?
Tight le suit. Là. Parfait. Tight, là. Tight, il tight, est comme tight. Extrêmement moulé. T'sais.
Puis là, finalement, comme par le plus grand des hasards, elle se pointe.
Ouais.
Lui est sur son lit de mort. Il lui donne tous les specs, tous les plans et compagnie. Puis il lui dit de pas aller dessus, de pas aller voir qu'est-ce que c'est. Son premier réflexe, c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est pour découvrir que ça marche pas.
C'est mal fait. C'est de la merde, là. Puis, parlons d'ailleurs du dernier, Michael Go, qui fait Alfred. Il est attachant.
Il est pas pire.
Il est pas pire, correct.
Il est pas pire.
Mais, tu sais, le personnage, il prend plus de place dans ça-là. Moi, c'est-tu qu'est-ce qui m'a le plus déçu?
Quoi?
Ils ont raté vraiment une bonne... Il est pas mort.
Ah oui, il aurait dû...
Il aurait dû mourir.
Ben, évidemment, il savait pas pendant le tournage du film.
Ouais, mais tu sais, il aurait dû mourir parce que... Ça aurait donné quelque chose de plus au film. Mm-hmm. Ça, le fait qu'il sauve la vie, ça enlève tellement. Là, c'est pas bon. C'est
ouais, une affaire que j'aime bien, c'est que ben, justement, j'ai écouté Batman Bad Blood. J'en parlais au début de l'émission là, mm-hmm. cette semaine. Et puis, y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans ce film-là. La première, c'est Damien qui est là puis qui est vraiment... Damien Wayne qui est vraiment... hargneux. Là. J'adore ce Robin-là. Et puis, la deuxième affaire qui fonctionne, c'est Alfred. Okay? Donc, dans l'histoire de Bad Blood, ce qui arrive, c'est que pour sauver Batwoman, il y a Batman qui... comme il apprend, puis il pitch à l'extérieur d'un building qui est sur le point d'exploser, mais lui, il n'a pas le temps de se sauver. Fait que le building explose avec Batman. Fait que là, Batman disparaît. Fait que là, le taux de criminalité monte à Gotham parce qu'ils se rendent bien compte, les criminels, que quand le signe de Batman flash dans le ciel, Batman ne se pointe pas. Fait que là, ce qui arrive, c'est que Nightwing retourne à la Batcave, met le soude de Batman et acte comme s'il était Batman entre-temps. Puis je m'en vais où avec ça? Ah oui, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, il y a donc Batgirl, Batwoman, il y a Dick Grayson, ben, il y a, pardon, Robin qui se pointe, puis il y a aussi, comment il s'appelle? Nightwing? Non, pas Nightwing, Batwing, c'est ça?
Ah,
en tout cas, le fils de Lucius Fox, Luca.
Ouais.
En tout cas, bref, il y a un autre super-héros qui se pointe, puis là, ils se rendent bien compte que c'est pas Bruce Wayne, tu sais. Fait que là, dans l'histoire, bref, à un moment donné, il parle d'Alfred. Il y a le téléphone qui sonne, c'est Alfred. Fait que là, Dick Grayson, il répond. Il dit, ouais, je voulais savoir, machin chouette, là. Fait que là, je pense que c'est Batwoman qui dit, quoi, le butler, il est dans l'histoire aussi. Puis là, il y a Dick Grayson qui dit, ouais, and he's real badass. C'est comme, il met, tu sais, il fait comme, oh wow, c'est Alfred, là. Ah, et dans l'histoire, à un moment donné, dans la fight contre le gros boss à la fin, Alfred se pointe, man.
Oh.
Avec un gun, puis il tire, puis il est super bon avec le gun, mais il est habillé en butler, là, avec une queue de pie, puis tout, là. Man, il tire du gun en tabarouette. Ça, c'est du Alfred.
Ça, c'est Alfred, ouais. Mais bon, c'est correct ce qu'il fait, là. Les effets, je vais éclairer, effets, décors, costumes, tout dans le même package, là, c'est vraiment horriblement mauvais. On a déjà dit que les costumes, c'était les véhicules. La Batmobile est horrible, je la trouve tellement laide, ça n'a pas de sens. Les combats, là, je vais éclairer dans les effets, les combats sont tellement mauvais. Les chorégraphies de combats sont mal faites. Tu vois que c'est pas fluide, qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, c'est comme... Les effets, bon, on l'a déjà dit, c'est pas bon. Les effets pratiques, c'est horrible. Il y a rien, je comprends pas, 125 millions, voyons donc, là. Il y avait les moyens de faire de quoi de plus beau visuellement, mais non.
Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans tes commentaires sur les show notes, ton commentaire sur... parce qu'on a toujours une catégorie variable, une catégorie autre. Et puis, je vais me permettre de te lire.
Tu vas me citer.
Je vais te citer. C'est le pire film de l'histoire de l'humanité. Tous les acteurs ont l'air de s'en calisser totalement. Quand Joel Schumacher va mourir, je vais aller pisser sur sa tombe.
Ouais, moi, j'adore Batman, puis ça me fait tellement chier que ça existe, ce film-là. Là. Il devrait arrêter de... Genre, il devrait détruire toutes les copies qu'il y a dans le monde. Faire comme genre pour le jeu de E.T. là, d'Atari. Là. Donc, c'est dans le désert, quelque part. Là. Bon, on va y aller avec la question du geek.
Sébastien.
Oui, monsieur.
Je suis vraiment content cette semaine que tu as mis, dans l'ouverture de notre épisode, tu as mis l'extrait de la question du geek. Donc, c'était la question de l'enchère, de la surenchère, en fait, qu'il y a pour acheter, donner un don pour passer une soirée avec Poison Ivy. Et Batman, finalement, propose 4 millions de dollars en sortant sa American Express. Pardon?
C'est 7 millions.
7 millions, excusez. Bref, ma question pour toi, c'est quelle est la date d'expiration de la carte de crédit de Batman?
Oh. Ah. 1935, non, 2035.
Non, ben oui, oublie pas non plus que t'as le droit à des...
Non, mais je disais ça de même parce que ça date 35-37 Batman, fait que je sais pas si... Tu sais, ça a mis quelque chose de... un indice.
Ce n'est pas une date.
C'est écrit Batman?
Non.
Un indice.
On est rendu à 3 essais. Donc, c'est le titre d'un film de Batman.
Ah, Batman Forever?
Oui.
Yark! Yark! Hey, c'est mauvais.
Je vais essayer de t'envoyer ça par... c'est pas une American Express, une Goth Card.
Goth Card. Tu peux me l'envoyer par Skype, je pense. Là. Il y a le chat de Skype.
Peux-tu faire ça?
Parce que d'habitude, Skype, il y a un chat, là. Mais, hey, j'ai eu combien?
7 sur 10.
Batman Forever. Ah, yark. Les extraits de la semaine. Voyons, je la vois pas, la photo. Ça me dit que tu m'as envoyé une photo. Ah, elle est là. Ah, ouais, ben... Batman Forever. Yeah. Beau.
C'est vraiment pas bon. En tout cas. Ouais, bref,
t'as changé de forme. Pourquoi?
Oui, hein? Je sais pas.
Aha.
Ah, voilà.
J'ai tout réglé ça. Bon, les extraits de la semaine. Écoute. C'est quand même un film productif en extrait vide. Peut contenir du vide. Le premier, c'est ha ha ha, not. C'est pas drôle, man. I want a car. Chicks dig the car.
This is why Superman works alone. J'appogne pas cette joke-là.
Parce qu'il est gossant. Mais en même temps, ce que je trouve bien dans l'extrait, t'entends comment c'est vide quand il parle.
Très vrai.
Ils lisent des lignes, là, littéralement. Bon, d'où c'est mauvaise réponse, le cave. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Je sais pas quoi dire, man. Je sais pas, man.
Non, mais laisse le film se caler lui-même, là.
Je sais pas quoi faire là, avec ça. Écoute, c'est tellement... Uma Thurman, je l'ai dit tantôt, j'adore, elle fait des bonnes affaires, mais c'est tellement une écriture de marde. Elle a tellement des choses de marde à dire, comme ce qu'on va entendre là. They replaced my blood with aloe, my skin with
chlorophyll. Avec le petit sax en arrière, là, tu sais. Oh, j'étais sûr qu'il y avait Careless Whispers de Tom Kelly.
C'est beau. Maintenant, écoute, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est un extrait là, qui m'a laissé complètement bouche bée. J'étais comme, je sais même pas quoi penser. Ce qui est rare chez moi, là, t'sais. Genre, je suis comme, mais, hein? Écoute bien ça. Youth does have its advantages. Endurance, stamina. Forget the geriatric bat. Come join me. My garden needs tending. les derniers mots, là. My garden needs tending. J'étais là que... Que... What? Tu sais, ça, il y en a un que what tantôt, mais... Là, j'étais... Elle a pas dit ça, pas vrai, là. Elle a pas dit ça, là.
Does the carpet match the drapes? C'est la prochaine question.
C'est ça, là, tu sais, les... Mais... J'en revenais pas. À vous, là, ça a comme pas de sens. Là. Tu dis...
C'est wrong.
Tu dis pas ça. OK. Ah ouais.
Donc, elle a un bouche. C'est ça qu'elle est en train de dire.
Je sais pas, man. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. C'est pas clair. Ça... T'as pas dire... En tout cas... Man, là, un moment donné, je me suis dit, coudonc, c'est-tu genre... Bleu nuit, tout à coup, c'est une espèce de mauvais film de cul, genre softcore, qui... parce qu'il y a des répliques comme celle qui s'en vient, là, que j'étais là. Ok, j'ai l'impression vraiment d'écouter un Bleu nuit, écoute ça. Hello, my little pretty. Hello yourself. You look good enough to eat. That I am.
Come and get me if you can. Bounge, bounge, bounge. Ouais. T'sais, moi, ce que je trouve assez épouvantable, c'est que lui, rabouter l'un après l'autre tous ces extraits-là, là, c'est comme un festival du mauvais.
Ah non, mais c'est. Ah non, mais celle-là, c'est intense. Avoue que t'as là. Tu sais, comme un mauvais scénario, tu me dis que les gens y arrivent, mais c'est comme. Tu sais, plus. Là, après ça, ça part. Je comprends pas, man. Je comprends pas. Ah ouais, on est en quelle année déjà? Hey, not bad for a chick! Not bad for a chick! Quand il a dit ça, j'étais... C'est un film de 1997. C'est une réplique dans le film. Hey, une femme qui est capable de faire de la moto. Ouh. Ça rentre dans ce qu'on disait tantôt. Mais là, t'es mal à l'aise.
Oui, 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 vraiment.
T'es comme, man, oh, cette réplique me donne envie de kicker un chaton.
A laundry service that delivers. Wow.
Ça, je pense que c'était celle de trop, là. Genre là, j'étais rendu comme non, man. C'est... Je suis plus capable. J'avais vraiment le goût de botter un chat, genre. C'est un petit chat cute, là. Genre, blanc, là, comme... Pow! En tout cas, je comprends pas. Ah oui, que ouais.
I'll help you grab your rocks.
Ça, d'où c'est que ça sort, ça? Que c'est, hein? C'est quoi le contexte?
Elle s'en va, elle sort Mr. Freeze de Arkham. Puis là, son suit, il est bas, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'énergie, fait qu'il a besoin d'aller chercher des diamants.
Des diamants, ouais.
I'll help you grab your rocks? Puis moi, ce que j'aime, c'est... Écoute, on va le réécouter, là. Je veux que tu entendes les corps après, OK?
I'll help you grab your rocks.
Ça fait vraiment comme...
moi, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on m'explique à un moment donné dans le suit de Mr. Freeze, c'est quoi le rapport entre son suit puis les diamants puis l'énergie de son suit?
C'est parce que ça utilise des lasers pour le refroidir. Je peux presque comprendre, tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu peux utiliser un diamant pour focusser quelque chose, mais pas en le dompant de même dans un. Je sais pas si tu comprends, là, ça devrait être des coups bien placés, mais... là, il fait juste comme plouf.
Puis pourquoi le diamant. Il est comme plus bon à un moment donné? Faut qu'il rampe. Ça brûle le diamant? Qu'est-ce.
It runs on diamonds.
Oui, j'aime beaucoup le prochain extrait.
I'll help you grab your rocks. Ok, ah oh oui, le prochain extrait, ouais. That's right, oh oui. He's a dick.
She wants to kill you, dick.
La manière qu'il dit, en plus, come on, là.
Mais c'est ça, je te dis, une fois que tu l'entends, tu peux plus l'enlever de l'oreille.
Ah, mais celui-là, là, il fait par exprès, jamais je croirais, là.
Ah non, mais ça se peut pas, là. T'sais.
She wants to kill you, dick.
Il dirait, oh, dick. C'était ça. Il y avait des beaux extraits. Écoute, j'en reviens pas encore des rocks. Ça c'est pertinent, mais écoute, ça n'a pas de sens. Je veux dire, j'en fais des jokes à double sens dans la vie, j'en fais plein, là. Mais il y a quand même, à un moment donné, là, il y a une limite, là. Faut que t'arrêtes à quelque part, là. C'est comme j'essayais d'expliquer à quelqu'un cette semaine qui a jamais joué à Kirby comment ça marchait Kirby. C'était quoi après ça du jeu? Ok, bouchez les oreilles, vos enfants. Fait que tu sais, si jamais tu veux expliquer à Kirby comment ça marche, c'est l'histoire d'un. Tu sais, c'est un jeu dans lequel tu joues une petite boule rose. Puis là, elle aspire les ennemis. Puis là, t'as deux choix. Soit t'avales, soit tu recraches. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne explication. Là. C'est exactement ça. Soit t'avales, soit tu recraches. Si t'avales, tu absorbes son pouvoir sur Crash. Ben, ça retourne sur l'autre.
C'est magnifique.
Fait que la musique. Que
la musique.
J'aime la musique.
Donc, la musique de Elliot Goldenthal. Elliot Goldenthal qui a fait Batman Forever. Il a fait d'autres choses. Mais en gros.
Mais c'est pas son thème à lui. C'est le thème de Danny Elfman.
Non, ça c'est le thème à lui. Le thème de Danny Elfman, c'est
notre. Le
thème de Danny Elfman, c'est pas.
Ah oui, c'est vrai, excusez-moi.
Ouais, quand même, j'aime ça. Je sais pas, toi. La musique symphonique, là.
Comme tu l'as écrit dans les show notes, c'est clairement la meilleure chose du film.
Ah oh, ouais.
La musique symphonique. Elle fonctionne là-dedans. C'est le type de musique qu'on veut pour un film de Batman. Les thèmes sont beaux. Ça fonctionne. La passe de corps, tantôt, très efficace. il y a, oui, ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne.
C'est les, ce qui me gosse le plus, c'est les, comme les espèces de sax qu'on entendait tantôt là, à chaque fois qu'il a posé un avis. Ça,
ah ouais.
Ça, c'est pas très bon. Là. C'est moins hot. Là. Mais la musique symphonique est correcte. Elle fait un job. Là. C'est pas la meilleure. C'est pas la pire. C'est correct. C'est ça. Puis le thème, moi, je préfère le thème de Danny Elfman, mais je trouve que le thème que Golden Child a fait, il est correct aussi. Là, ça a une certaine valeur. Là. Mais... ouais, c'est il y a beaucoup de musique dans le film. C'est omniprésent, il y en a tout le temps. Là.
Mm-hmm.
Ça, j'aime ça aussi. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on perd un peu aujourd'hui. Là, puis... mais bon. Mm-hmm. On est loin de la trame sonore de Star Trek, de Motion Picture, mais... David, donne-nous ta note.
He scores!
2 sur 10. Je vais donner la magnifique note de 2 sur 10. Un pour la musique et un autre point pour les éclairages dans le film. Les couleurs, je trouve qu'ils sont belles. Tout ce qui est Mr. Freeze est bleu. Tout ce qui est Poison Ivy est vert et rouge. Ça, je trouve ça cool. Fait que 2 sur 10. Oh, et tu viens de modifier ta note.
Ouais. Je vais y donner un coup. 0 sur 10.
Sans compromis. Hein,
ah non, écoute, parce que même... oui, ce que t'as dit, t'as raison, ça fait monter la note. Parce que sinon, j'aurais été dans le négatif. C'est que le reste est tellement pathétiquement mauvais, plus que Battlefield Earth. Parce que Battlefield Earth, au moins, il y avait une tentative de quelque chose. Le matériel duquel ils sont partis, c'était peut-être pas le meilleur. Je faisais le Runner Bird, là. En tout cas. Mais là, il y avait rien. Il y a rien qui réussit. Il y a rien qui fonctionne. À peu près tous les acteurs ont l'air de s'en sacrer. Je ne comprends pas qu'une telle catastrophe a pu se produire dans une production qui avait 125 millions de dollars. Je peux pas croire qu'ils ont réussi à faire de l'argent, malgré tout.
Mais, je suis pas sûr qu'ils en ont fait beaucoup. Ben, peut-être avec la version DVD.
Box office, 234 millions.
Ah, OK.
Mais, bon, on sait pas c'est quoi le budget. Parce que le 125 millions, ça c'est le budget de film, mais on sait pas c'est quoi le budget de promotion. Là. Fait que, t'sais,
ouais, c'est ça.
Ben, je pense pas qu'ils ont fait 120, 115 millions de budget de promotion, mais... écoute, il y a du monde qui sont en prison pour avoir fait des choses moins pires que Batman and Robin. Ça, c'est clair. Là. Fait que j'aurais voulu qu'ils interdisent... Bon, en même temps, non. George Clooney nous a donné des super belles affaires après, là, mais Joel Schumacher a dû être interdit de faire quoi que ce soit. Là, t'sais, ça aurait dû être « Non, t'as plus le droit de travailler. » Mais bon, bref, c'est ça. On va saluer une auditrice de France qui nous a écrit cette semaine, avec qui j'ai parlé un petit peu, qui s'appelle Aude Jardel, qui a découvert notre podcast. Moi, je trouve ça intéressant que les Français nous comprennent qu'on parle, c'est bien. On n'est pas spé.
On est peut-être doublement intéressant, en fait. mais je trouve ça vraiment le fun, parce que ben, c'est toi qui a écrit via Facebook à Aude, mais j'ai été témoin de la conversation en temps réel. Et puis, c'est juste que je trouve ça absolument merveilleux, le monde du podcast. Là.
Ah,
écoute,
ouais.
On en avait parlé l'autre fois quand on a eu un gars qui a écrit des commentaires vraiment très négatifs sur notre fil Facebook. Et puis... puis j'avais dit, écoute, c'est correct, parce que si on est rendu à avoir des commentaires négatifs de gens qui prennent le temps de nous écrire parce qu'ils n'ont pas aimé ça, ben, c'est parce que quelque part, ils nous ont écoutés.
Ouais, c'est ça.
C'est déjà ça. Mais évidemment, c'est encore plus intéressant d'avoir des commentaires positifs de quelqu'un qui nous découvre puis qui aime ce qu'on fait. Donc, merci de nous avoir contactés. Merci de nous avoir... de nous donner une tape dans le dos. En fait, c'est vraiment un bel encouragement qu'on se fasse écouter à travers l'Atlantique.
Ah, c'est la beauté du podcast, c'est qu'on peut on peut écouter n'importe où. Il y a des gens de partout dans le monde qui écoutent. Puis c'est des fois, je suis toujours étonné de voir les pays qui passent dans la liste. Là. Mais fait qu'un, on va souhaiter une bonne journée à tous nos amis français. En plus, il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas.
Mm-hmm.
Fait que merci beaucoup, Aude. Puis continue de nous écouter, à nous écrire. T'as deux anniversaires.
J'ai deux anniversaires aujourd'hui, 16 juillet. Le premier, c'est à l'ouverture de l'émission, j'ai dit que j'avais écouté Top Hat cette semaine, qui est un film de Fred Astaire et Ginger Rogers. C'est l'anniversaire de Ginger Rogers aujourd'hui. Donc, bonne fête, Madame Rogers, même si je crois que...
C'est un anniversaire posthume.
Non, elle est toujours en vie, madame.
Yeah. Elle doit pas être jeune.
Ah non, non, elle est décédée, excusez-moi, okay. Elle est décédée le 25 avril 95.
22 ans maintenant.
Elle est décédée à l'âge de 83 ans. Mais bref, Ginger Rogers, qui était absolument hallucinant dans Top Hat. Très, très bon film. On dirait en fait une pièce de théâtre d'été un peu. Là. C'est vraiment bon. Je vous conseille d'écouter ça. D'ailleurs, il y a une scène absolument magnifique. T'sais, Fred Astaire, il arrive dans une chambre d'hôtel, puis là, il est avec son scénario. Il joue une star d'Hollywood. Il se met à danser, puis là, il y a la claquette. Il y a un gros numéro de claquette dans la chambre d'hôtel. C'est magnifique. Puis là, la caméra descend, puis descend, puis descend vers les pieds de Fred Astaire, puis descend, puis continue de descendre à travers le plancher. Puis là, tu te retrouves dans la chambre d'hôtel en dessous. Où est-ce qu'il y a Ginger Rogers qui essaye de dormir? Puis là, t'entends juste. Parce que le gars, il est en train de faire la claquette en haut. C'est ça, là, ça la réveille. Puis là, c'est ça qui est la raison de l'histoire. C'est qu'elle s'en va se plaindre au management. Puis en tout cas, très bon film, Top Hat. C'est vraiment un cœur. Le deuxième anniversaire du jour. C'est Will Ferrell.
Ah, ben ouais,
c'est
cool.
C'est l'anniversaire de Will Ferrell.
Il a quel âge?
Très bonne question. Will Ferrell.
Quel âge a-t-il? Moi, pendant ce temps-là, j'essaie de être sur le Doctor Who Watch. Je regarde. Toujours pas. C'est pas fini encore. Vas-y.
Il a 50 ans aujourd'hui.
Oh, 50 ans!
Il est né le 16 juillet 1967. Donc, 50 ans aujourd'hui, D'Angelo Vickers.
Ouais, on va essayer un bon anniversaire. Allez faire un tour sur notre Patreon, patreon.com/sbalbino. Coûte 1$ par mois, ça nous aide beaucoup. On a atteint notre premier objectif de 25, il va falloir qu'on trouve un autre objectif. Peut-être qu'on va le setter à 50. Là. ce qui fait que le mois prochain, on va vous faire à tous nos patrons, tous les gens dans le fond qui donnent au Patreon, un épisode exclusif sur la trame sonore de Star Trek The Motion Picture. Parce que le principe, c'était ça. À 25$, on fait un épisode une fois par mois juste pour les gens qui nous donnent. Fait que si vous voulez entendre ça, n'oubliez pas, David et moi, on est des musiciens. Fait qu'on risque de se connaître un peu en musique. Allez.
C'est ce qu'ils disent.
Fait que ça va être super intéressant. Vous allez pouvoir. Il va y avoir dans l'émission nos commentaires et il va y avoir les pièces desquelles on va parler. Vous allez pouvoir les entendre aussi. Ça va être super bien fait. C'est une émission qui doit durer à peu près, peut-être, autour d'une demi-heure, que nous, on parle. Après ça, les extraits audio, ça va être en plus de ça. Fait que, allez-y, allez nous donner $1, c'est pas grand-chose, c'est moins que café chez Starbucks. Chez Starbucks, t'as rien pour une pièce. Nous autres, une émission spéciale, en plus de nous aider à faire nos 4 autres par mois. Fait qu'allez faire un tour. Là-dessus, c'est tout pour notre épisode de cette semaine. La semaine prochaine, lundi le 24, vous allez avoir un épisode. Je vais vous mettre un épisode seulement en podcast sur Firefly The Train Job, qui est le premier épisode ou le deuxième si tu comptes le pilote comme premier. Vous pouvez suivre toutes les activités de Vision X sur moitiregeek.com/visionx, voyons. moitiregeek.com/visionx. Allez faire un tour là-bas. Vous pouvez aller sur Facebook, sur Twitter. Allez aussi sur Balado Québec. Vous allez pouvoir trouver tous nos épisodes là-bas, tous les liens vers tout, genre Twitch, YouTube, toute la patente, tout est là. Et allez nous laisser un 5 étoiles sur Balado Québec, s'il vous plaît. Vous pouvez trouver aussi l'émission sur RZO, sur l'Entre du Geek, sur iTunes, sur Google Play Music. Partout où il y a des podcasts, on est là. Vous pouvez aussi trouver tous nos épisodes sur SoundCloud. SoundCloud.com/Sébastien Balbino, je crois. Il faudrait que je les réécrive à quelque part, j'oublie tout le temps. Et c'est ça. Merci beaucoup. Merci David.
Merci à toi Sébastien.
On se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde.